VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 6 octobre 2015, en direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a annoncé la date du référendum sur le projet de nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Sassou Nguesso.
Au Burkina Faso, interpellation hier par la gendarmerie de deux anciens proches du président déchu, Blaise Compaoré.
En Côte d'Ivoire, Amnesty International dénonce les arrestations arbitraires d'opposants à l'approche de la présidentielle du 25 octobre.
En République démocratique du Congo, un haut responsable britannique tous les progrès enregistrés dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles contre les femmes.
La Tunisie et la France ont signé lundi une feuille de route qui prévoit le renforcement de la coopération militaire dans le cadre de la lutte antiterroriste.
L'OTAN a jugé extrêmement dangereuses les incursions de l'aviation russe en Turquie et s'inquiète des frappes aériennes de Moscou en Syrie. Nous reviendrons aussi sur la violence du week-end passé au Burundi. Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement de la République du Congo a fixé au 25 octobre la tenue du référendum sur le projet de nouvelle constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se présenter en troisième mandat en 2016. Cette décision a été annoncée hier soir à l'issue du Conseil des ministres. Le projet de nouvelle constitution fait disparaître l'âge maximal de 70 ans inscrit dans la constitution de 2002. Monsieur Sassou Nguesso a 72 ans. L'annonce du référendum le mois dernier avait provoqué des protestations de milliers de Congolais dans les rues de Brazzaville, la capitale. Monsieur Sassou Nguesso cumule plus de 30 ans à la tête du pays.
Au Burkina Faso, deux leaders politiques proches du président déchu Blaise Compaoré ont été interpellés lundi par la gendarmerie pour leur implication présumée dans le coup d'État avorté du 17 septembre. Léonce Conné, deuxième vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Compaoré, et maître Herman Yaméogo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, ont été auditionnés dans le cadre des enquêtes sur le coup d'État et ils sont en garde à vue, a indiqué la gendarmerie nationale à l'AFP.
Amnesty International a appelé la Côte d'Ivoire à mettre fin aux arrestations arbitraires d'opposants à l'approche de la présidentielle du 25 octobre. Dans un communiqué publié lundi, l'ONG note qu'une soixantaine de personnes, dont plusieurs cadres de l'opposition, ont été arrêtées depuis la mi-septembre suite à la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Au moins 30 sont toujours en détention, souligne Amnesty.
Au Niger, la situation sécuritaire à Difa reste préoccupante, surtout après les récents attentats de Boko Haram dans l'extrême sud-est du pays. Que fait le gouvernement de Niamey contre la menace que continuent de poser les militants islamistes nigérians? Une des questions posées par notre collègue Abdulaziz Adili Toro à la ministre des Affaires étrangères du Niger, Kan Aishatou Boulama, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
C'est vrai, nous sommes en guerre et cette guerre, nous la menons ensemble avec des pays du bassin du lac Tchad, c'est-à-dire le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Et depuis un certain temps, la force multinationale est opérationnelle et nous sommes déterminés à combattre Boko Haram et nous sommes déterminés à le radier de la planète pour que nos populations qui vivent dans le bassin de la Sahara retrouvent la paix et la quiétude. Et nous louons la détermination et l'engagement et le sacrifice de nos forces de défense et de sécurité qui sont à pied d'œuvre nuit et jour pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans la région de Difa.
La secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, lors d'une conférence officielle hier, a fait état des progrès de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre les violences sexuelles contre les femmes. Le point avec Dili Diko.
Lors d'une cérémonie officielle en République démocratique du Congo, Joyce Hanley, représentante du gouvernement britannique, a indiqué que la RDC a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre les violences sexuelles qui frappent depuis des années l'est du pays. Outre les progrès réalisés par la RDC, Madame Hanley, également représentante spéciale du Premier ministre britannique pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits, a fait remarquer que le pays a pris des mesures impressionnantes, témoignant de l'engagement clair du gouvernement congolais à mener des actions réelles et concrètes. Joyce Hanley a félicité Kinshasa d'avoir mis en œuvre une stratégie nationale contre les violences sexuelles, mené les procès d'officiers militaires de haut rang condamnés pour crimes sexuels et nommé Jeanine Mabunda comme représentante spéciale du président Joseph Kabila pour la lutte contre les violences sexuelles en 2014. Lors de cette visite, Madame Mabunda a reçu symboliquement le protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit. Ce document sera traduit par la Grande-Bretagne en Lingala et Swahili, les deux langues les plus parlées en RDC.
La Tunisie et la France ont signé lundi une feuille de route qui prévoit le renforcement de la coopération militaire dans le cadre de la lutte antiterroriste, avec pour domaine prioritaire les forces spéciales et le renseignement. Les détails de Tatiana Mosso.
Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, après un entretien avec son homologue tunisien Farah Torchani, a identifié deux priorités, l'équipement et la formation des forces spéciales ainsi que le renseignement. Paris s'engage à y consacrer 20 millions d'euros ces deux prochaines années. La sécurité de la Tunisie, c'est aussi la sécurité de la France, nos destins sont liés, d'autant plus que nos deux pays ont été victimes en cette année 2015 d'attentats sanglants, a encore fait valoir Jean-Yves Le Drian. Monsieur Archani a de son côté évoqué notamment les besoins techniques de la Tunisie en matière de renseignement, une prochaine révision juridique de la convention militaire qui lie les deux pays depuis 1973 a été annoncée. La France s'est engagée à renforcer sa coopération avec Tunis au lendemain de l'attentat du musée du Bardo en mars qui avait fait 22 morts dont 21 touristes. Cet engagement a été réaffirmé après l'attaque sanglante de Sousse, 38 morts, fin juin, elle aussi revendiquée par le groupe État islamique. La France et la Tunisie sont parmi les pays les plus touchés par l'enrôlement de leurs ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes telles que le groupe État islamique.
Le président français François Hollande et la présidente de la Commission de l'Union africaine Nkosa Zana Dlamini Zuma ont fait part lundi de leur volonté d'élaborer un plan contre les causes des migrations lors du prochain sommet de Malte entre l'Union européenne et des pays africains. Il s'agira aussi les 11 et 12 novembre d'agir à la source, pour citer M. Hollande, qui a ajouté lors d'une déclaration conjointe à l'Élysée, cela suppose de mettre en place une grande politique de développement, a-t-il ajouté lors d'une déclaration conjointe à l'Élysée. Madame Dlamini Zuma a pour sa part jugé qu'il était prioritaire de réduire la pauvreté sur le continent, de moderniser l'agriculture et de former la jeunesse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement hier à William Campbell, américain né en Irlande, au japonais Satoshi Omura et à la chinoise Tu Youyou, découvreur de traitements contre les infections parasitaires et le paludisme. Claire Morin-Gibourg.
Double originalité pour le prix Nobel de médecine cette année. Les trois lauréats récompensés ont en commun cherché des substances bioactives dans la nature. William Campbell et Satoshi Omura sont récompensés ensemble pour leurs travaux sur un nouveau traitement contre les infections causées par des vers. Le jury Nobel a mis en avant que les maladies parasitaires touchaient particulièrement les populations les plus pauvres du monde et étaient de véritables fléaux pour l'humanité. La troisième lauréate, Tu Youyou, 84 ans, est primée, elle, pour ses découvertes concernant une nouvelle thérapie contre le paludisme. Longtemps pressentie pour recevoir le prix, elle a découvert un traitement particulièrement efficace contre le paludisme grâce à un extrait de la plante Artemisia annua. 12e femme et première chinoise Nobel de médecine, Tu Youyou avait commencé ses recherches en combinant textes médicaux anciens chinois et remèdes populaires. L'artémisinine est aujourd'hui le traitement le plus efficace et sûr contre le paludisme, maladie qui touche près de 200 millions de personnes par an et en tue plus de 500 000, principalement des enfants africains.
Un influent parlementaire russe, l'amiral Vladimir Komoyedov, a annoncé qu'une unité de volontaires russes, dont des anciens combattants aguerris qui sont battus dans l'est de l'Ukraine, pourrait se joindre aux forces gouvernementales syriennes face aux djihadistes du groupe État islamique et autres terroristes en Syrie. Il réagissait à des informations non confirmées selon lesquelles des volontaires russes ont été vus en compagnie de l'armée syrienne.
Pour sa part, l'OTAN a jugé extrêmement dangereuses les incursions de l'aviation russe en Turquie. Et ses 28 membres se sont inquiétés des frappes aériennes de la Russie en Syrie qui ont fait des victimes civiles et ne visaient pas les djihadistes de l'État islamique. Les détails avec Salwa Jafari.
C'est une pluie de critiques qui s'est abattue sur la Russie depuis que son aviation a violé l'espace aérien turc ce week-end près de la frontière avec la Syrie. Ankara a vivement protesté auprès de Moscou après l'interception par des chasseurs et F-16 d'un avion de combat russe. Le pays a aussi demandé à la Russie d'éviter une répétition de cet incident et fait savoir que le cas échéant, la Fédération de Russie serait considérée responsable de tout événement non voulu qui pourrait avoir lieu. Le secrétaire d'État américain, lui, n'a pas usé d'euphémisme. John Kerry a déclaré « Les avions russes auraient pu être abattus en représailles ». Ces incidents ne sont pas du goût de l'OTAN non plus. L'organisation a appelé la Russie à pleinement respecter son espace aérien et à éviter une escalade des tensions avec l'Alliance. Au cœur de ces tensions, les réelles intentions de Moscou. La Russie affirme que ces frappes sont dirigées uniquement contre le groupe État islamique, mais Ankara et ses alliés occidentaux accusent Moscou de concentrer ses attaques sur les forces syriennes modérées.
Et maintenant, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Bingo pour AfroStream, plateforme payante de vidéos à la demande consacrée au cinéma afro. Un mois après le lancement de cette jeune start-up, le groupe de téléphonie Orange a annoncé sa participation à son financement. Fort d'un catalogue d'une centaine de films et d'une quinzaine de séries, AfroStream a lancé début septembre son service au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Déjà présent dans 15 pays en Afrique, mais aussi dans des pays européens ayant des diasporas importantes, Orange a fait du continent africain l'un des principaux leviers de croissance du groupe. Kinross, le cinquième producteur d'or au monde et propriétaire de la mine de Tasiast en Mauritanie, serait dans le collimateur de la justice américaine, selon le journal Le Monde. D'après le quotidien français, les autorités américaines enquêtent sur d'éventuelles commissions illégales réalisées par le groupe canadien, avec une longue liste de personnalités mauritaniennes, le plus souvent des proches du président Mohamed Ould Abdelaziz. Kinross a racheté le site minier de Tasiast, le plus important gisement aurifère du pays, à son compatriote Red Black Mining pour environ 7 milliards de dollars en septembre 2010. La justice française a annulé la saisie en juillet dans l'est de la France d'un Boeing 777 de la compagnie équato-guinéenne Ceiba Intercontinental dans le cadre d'un litige entre la Guinée équatoriale et une banque africaine. L'avocat de la compagnie aérienne s'est réjoui de cette décision, cette société n'ayant pas, selon lui, à répondre aux dettes de l'État.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Football européen, pour commencer à Londres, José Mourinho reste confiant malgré ses très mauvais résultats, les pires qu'il ait jamais eus.
Oui, c'est vraiment du Mourinho. Si Chelsea veut me virer, qu'il me vire, a lâché le technicien portugais de Chelsea. Mais moi, je ne partirai pas, je veux continuer, a-t-il ajouté. Immédiatement, il a reçu le soutien de son club qui a affirmé avoir la bonne personne pour retourner la situation wait and see.
Le Benfica de Lisbonne et l'Atlético Madrid dans le viseur de l'UEFA.
Une ouverture d'une procédure disciplinaire vise ces deux clubs européens. Benfica est mis en cause pour troubles publics, usage de fumigènes et jets d'objets. L'Atlético, pour sa part, est soupçonné d'avoir bloqué l'accès à certains escaliers. L'incident a eu lieu mercredi dernier en Ligue des Champions au stade Vicente Calderón.
Le scandale à la FIFA défraie encore la chronique.
Effectivement, mais ce sont maintenant les sponsors qui donnent de la voie, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a appelé lundi à des réformes rapides et transparentes de la Fédération internationale de football. Mais sans faire de commentaires directs sur les scandales touchant l'instance mondiale et son président Joseph Blatter.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Burundi a connu de violences sanglantes le week-end dernier, des violences plutôt sanglantes. 8 personnes ont été tuées dans des affrontements entre la police et les opposants au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Mais d'autres sources font état de plus de 15 morts. La situation est loin de s'apaiser dans plusieurs quartiers du nord de la capitale burundaise où plusieurs grenades ont explosé hier soir. Qu'est-ce qui expliquerait ce regain de violence? Eric Manirakiza a joint à Kigali Innocent Muhoozi, directeur général de la radio-télévision Renaissance du Burundi.
La violence que nous avons été témoins ce week-end n'est pas surprenante. Elle fait partie d'un processus d'aggravation de la crise que vit le pays depuis plusieurs mois, où on voit des violences répétitives sans qu'il y ait la moindre enquête, sans qu'il y ait la moindre trace d'un État, d'un système judiciaire, d'un système policier pour protéger les gens. Et c'est devenu pratiquement une jungle où on voit des hommes en uniforme qui tuent les citoyens qu'ils sont censés protéger. Donc c'est vraiment une situation qui rend assez dégradant, puisque quand on voit en même temps la détermination que cette violence, cette absence de protection, cette absence de justice est en train de créer au sein de la jeunesse, au sein de la population, cela ne reste présager rien de bon. Tout cela, c'est des éléments qui montrent que non seulement ce week-end, il y a une violence d'un autre niveau, mais qu'en plus, ça ira en se répétant ou en s'aggravant.
Les autorités du pays seraient aussi dans la panique.
Comment pouvez-vous gérer un pays? Comment pouvez-vous trouver des solutions aux problèmes d'un pays quand vous-même, vous êtes dans la panique la plus totale? Quand on voit tous ces ministres, tous ces officiers supérieurs de l'armée, de la police, les plus hautes autorités du pays, qui sont installés dans une peur constante d'être tués, puisque plus personne n'est à l'abri de la violence. Donc c'est vraiment une situation extrêmement grave. Le Burundi est au bord de l'explosion. Il faut qu'on le répète, qu'on le dise, qu'on le voit, qu'on se rende compte que tout le monde fasse le maximum pour éviter cette explosion-là. Ce qui est en train de se passer dans ce pays est extrêmement grave. Et encore une fois, quand on entend les propos du parti au pouvoir qu'on a entendu là, en termes de haine ethnique, de haine tout simplement contre tous ceux qui disent qu'il faut que les choses se passent autrement, c'est extrêmement inquiétant. Et je ne sais pas jusqu'où iront les éclats de cette explosion. Ce n'est pas une histoire de Hutu, ce n'est pas une histoire de Tutsi, ce n'est pas un pouvoir de Hutu qui est menacé par des Tutsi, ce n'est pas des Tutsi qui cherchent un pouvoir. Tout le monde est témoin aujourd'hui. Il y a une crainte à avoir qu'il ne faut pas laisser ces gens prédominer parce qu'ils sont extrêmement dangereux pour tout le pays et pour eux-mêmes.
Est-ce qu'en le faisant, ils prétendent se tirer d'affaires?
C'est une illusion, parce que vous savez, c'est le bon vieux schéma où les gens se disent on utilise la question, ça devient un conflit ethnique, là on peut s'en sortir, parce que ça devient une histoire de minorité contre majorité, mais tout le monde sait que ça n'a plus rien à voir avec cela.
Ça pourra faire des victimes quand même.
Mais ça le fait déjà, ça fait déjà beaucoup de victimes, il y a déjà trop de morts, il y a trop de prisonniers, il y a trop de Burundais en exil, alors que les gens se connaissent, on pourrait discuter de tout ce qui est un problème, chacun pourrait trouver sa place, pourquoi cette folie-là?
Eh bien c'était Innocent Muhoozi, joint à Kigali. Au Burkina Faso, le coup d'État avorté du général Gilbert Diendéré aura coûté aux finances publiques burkinabées au moins 50 milliards de francs CFA. Il a eu aussi un impact négatif sur tous les secteurs socio-économiques du pays, avec un accent plus aigu sur les secteurs commerce et petits porteurs de l'informel, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Zoumana Wonogo.
Les finances publiques ont ressenti le contre-coup et plus durement encore, il l'est pour les ménages et le secteur informel. Écoutons Rasmane Zongo, il est réparateur de cyclomoteurs.
Depuis ça a commencé là, on ne travaillait pas. Moi, j'ai un mécanicien. Je vends des pièces détachées et puis j'ai fait ma mécanique et puis j'ai nourri ma famille. L'État même a dit qu'il a perdu 50 milliards. Moi-même, je ne peux pas avoir 1 million même, mais moi aussi, j'ai perdu beaucoup de choses. Même nourriture, la main des femmes, c'était dur avec moi. Parce qu'on ne travaillait pas. Chaque jour, je travaille, je nourris ma famille. Quand j'ai le problème de la vie, comme ça, je ne peux pas travailler. Coup d'État là, moi, je suis contre. Je suis contre celui qui a fait le coup d'État là. Je veux que notre pays là, c'est devenu bonne démocratie correctement.
Les finances publiques ont perdu au moins 50 milliards de francs CFA. Du côté du syndicat des commerçants, son président, L.H. Inoussa Kabore, estime au double le préjudice subi dans le secteur commerce.
C'est nous qu'on veut évaluer, il y a des centaines de milliards, puisque le gouvernement s'est basé sur les impôts. Les impôts, c'est le commerçant, c'est le privé qui paie. Donc, ça veut dire, nous, on a subi plus que le gouvernement. Imaginez les produits périssables. Il y a au moins 4 remorques qui sont revenus avec les bétails, qui devraient aller à Côte d'Ivoire pour le faire de tabasque. N'ont pas pu franchir. Une remorque estimée 200 moutons, je prends comme ça, ça peut être plus 100 000 par 200, ça fait combien? Toi, tu avais emprunté un crédit à la banque pour faire cette affaire et ce revenu. C'est une perte. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a un commerçant, un débrouillard qu'on a abattu froidement comme ça. Une balle. Vraiment, quand on repense, ça fait très mal.
Mais tous les ressorts ne sont pas cassés, assure l'économiste Seydou Ouédraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique. Le Burkina peut, dit-il, tirer un grand bien du mal qu'a été le coup d'État.
Les choses qu'il y a à faire, c'est la consolidation de la question sécuritaire, traiter les conséquences de la dissolution du RSP. S'il y a des gens qui sont dans la nature, il faut les retrouver. S'il y a des caches d'armes, s'il y a des munitions qui sont en vadrouille, s'il y a des armes qui sont en circulation, il faut vraiment faire le maximum. La deuxième question qui est une grande priorité, c'est celle de la justice. Il y a eu des éléments qui sont de l'ordre de la flagrance délit en ce qui concerne le putsch. Il faut qu'on aille sans précipitation, mais il faut qu'on aille assez rapidement pour installer le processus, sécuriser le processus. Parce qu'en réalité, si vous ne faites pas la justice, vous ne permettez pas à l'insécurité de s'arrêter. La justice ferait que l'ensemble des éléments qui pourraient perturber la stabilité sociale aujourd'hui et demain pourraient être retirés. Et la justice permettrait également de déchirer, comme quelqu'un l'a dit, le voile de l'impunité. Et ça, c'est très, très important.
Joana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La dette publique du Togo s'est détériorée ces trois dernières années. Pour éviter l'austérité, les économistes recommandent à l'État togolais de revoir sa politique économique. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Selon le dernier rapport du FMI, le taux d'endettement du Togo représente 62,5% de son produit intérieur brut. La dette est évaluée à plus de 1 500 milliards de francs CFA, dont 700 milliards pour la dette extérieure et 800 milliards pour la dette intérieure. Pour l'association Veille économique, ce niveau d'endettement donne à réfléchir. Thomas Koumou, président de Veille économique.
Pour nous, à Veille économique, ce niveau d'endettement, c'est déjà critique parce que le seuil de convergence de la zone UEMOA se situe à 70% du PIB. Nous sommes à 62,5%. Et surtout, nous constatons que cet endettement n'a pas servi à financer des investissements productifs dans le court et le moyen terme. Il a servi essentiellement à financer des investissements du tertiaire qui sont productifs dans le long terme, alors que nous sommes face à des besoins cruciaux, immédiats, auxquels il faut répondre.
Selon cette association, le Togo frôle le surendettement, ce qui inquiète les syndicalistes qui redoutent l'austérité. Professeur David Dosset de la coordination de la synergie des travailleurs du Togo.
Il est clair que l'endettement du Togo n'a pas du tout servi le développement de notre pays. Je pense sincèrement que l'austérité a commencé. Elle est pour le moment masquée, mais si nous continuons sur cette voie, c'est sûr qu'elle sera de plus en plus criarde et le panier de la ménagère n'est pas prêt de se remplir. Pour que les revendications sociales puissent être satisfaites, il faut que le pays dispose de ressources. Mais là, nous nous rendons compte que la marge de manœuvre est de plus en plus réduite puisque le Togo s'est énormément endetté. Cela peut bien sûr impacter négativement nos revendications.
S'il est clair qu'aucun pays ne peut se développer sans s'endetter, dans le cas du Togo, l'économiste Stéphane Akaya estime qu'une révision de la politique économique s'impose.
Le Togo doit pouvoir assurer de manière optimale les besoins des populations. Si nous devons mener des politiques économiques cohérentes, c'est des politiques économiques qui mettent les populations au centre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir identifier des politiques économiques qui permettent réellement aux populations de pouvoir bénéficier de cette dette, orienter cette dette vers des secteurs porteurs, de sorte que ces secteurs porteurs puissent réellement permettre de payer la dette à l'avenir.
À l'issue d'une mission en août dernier, le Fonds monétaire international s'est inquiété de la détérioration de la dette publique du du Togo. Dans son rapport, la mission a recommandé entre autres l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance, la poursuite des réformes dans la collecte des recettes et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer les investisseurs étrangers. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Les grèves répétées des enseignants en Afrique témoignent des difficultés du secteur éducation sur le continent. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants lundi, Nathalie Barge a joint au Gabon Claudine Auger-Angoué, anthropologue à la faculté des lettres de Libreville.
On a eu grève pendant 4 mois à partir du mois de février dernier. À l'issue de cette grève, les enseignants étaient mis sur bon de caisse. D'autres ont eu leur salaire coupé. Quand on a repris les cours, c'était 1 semaine par enseignement, maximum 2 semaines par enseignement. Ensuite, il fallait respecter les 2 semestres. Donc, tout le monde n'avait pas terminé les corrections parce que nous sommes obligés d'affronter des effectifs de 200 à 800 étudiants par amphi. Des collègues qui n'avaient pas terminé, surtout du deuxième semestre, sont obligés de corriger les copies, d'organiser les rattrapages qui ont commencé pour certains ce matin pour boucler l'année dernière. Il y a des notes qui sont affichées aujourd'hui pour les étudiants. Donc nous sommes encore dans l'année 2014-2015. Ça fait à peu près 10 ans que c'est comme ça.
Alors justement, beaucoup de grèves au Gabon. Comment vous faites pour rejoindre les deux bouts là, au niveau du salaire avec toutes ces grèves?
Heureusement pour nous, nous avons un peu de cervelle. Hein. Donc on réfléchit pour savoir comment il faut se priver pour joindre les deux bouts. Il y en a qui ont des opportunités, consultants par-ci, experts par-là. Il y a d'autres qui font la cour, qui deviennent les clients du politique, donc qui sont dans des cabinets politiques, qui sont dans d'autres activités extra-académiques. Donc chacun se débrouille avec son intelligence et les opportunités qui lui sont offertes.
Professeur Angoué, selon vous, quel est le plus grand défi à relever des enseignants en Afrique d'une manière générale ?
Ce serait prétentieux de parler de l'Afrique, mais je vais quand même parler du Gabon. De manière générale, au Gabon, le plus gros défi, c'est d'arriver à rattraper la qualité de l'enseignement que nous dispensons, simplement parce que le temps n'est pas donné pour des enseignements qu'on avait de 60 heures. On les ramène à 20 heures, à 15 heures. Donc, j'ai l'impression que nous profitons du système LMD qui nous a été quasiment imposé parce qu'on ne l'a pas étudié pour justifier un peu n'importe quoi. Donc le défi, c'est de pouvoir rattraper, revenir à un enseignement de qualité et puis à valoriser le travail de l'enseignant. Parce que finalement, c'est vrai ce qu'on dit que l'enseigner en Afrique, c'est un sacerdoce. Il faut vouloir, il faut aimer pour accepter de travailler dans les conditions qui sont les nôtres.
Il faut être passionné.
Il faut être passionné, il faut être fou. Pas que passionné, mais il faut être fou pour accepter d'enseigner à l'université, en Afrique francophone surtout.
Claudine Auger-Angoué, anthropologue à la faculté des lettres de Libreville au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Mali, le paludisme continue de faire des victimes, surtout dans les régions du nord. De Bamako, Kassim Traoré.
La fièvre qui sévit actuellement dans les régions nord du Mali n'est autre que le paludisme, c'est ce que nous apprenons au niveau du ministère de la Santé. Comparativement à l'année 2014, les cas de paludisme présumés ont connu une augmentation. Il a été notifié en 2015 396 287 cas contre 354 828 cas en 2014, soit une augmentation de 41 459 cas. Les trois régions nord du Mali sont considérées comme des zones à risque d'épidémie de paludisme. C'est là à cause de la période hivernale considérée comme une période de haute transmission. On y constate habituellement une augmentation du nombre de cas de paludisme. Au département de la santé, on apprend que des dispositions idoines avaient été envisagées par le gouvernement avant le début de l'hivernage, comme le renforcement de la prise en charge systématique de tout, le traitement préventif chez la femme enceinte qui est passé de 2 à 3 doses et la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans le cadre de l'accès universel. Face à la situation actuelle, d'autres mesures ont été envisagées par le gouvernement, comme la dotation supplémentaire en intrants antipaludiques, des moustiquaires imprégnés et infestés pour les localités concernées. Le ministère de la Santé va recruter de nouveaux personnels qualifiés pour les zones concernées dans les centres de santé et de référence. Sans oublier la chimio-prévention du paludisme saisonnier en perspective pour tous les âges dans les régions de Kidal. Le gouvernement malien a rassure les populations que toutes les mesures seront prises pour faire face à la situation actuelle qui concerne l'ensemble du pays, avant d'inviter la population au respect des mesures habituelles de prévention, notamment dormir sous les moustiquaires à longue durée et la promotion de l'hygiène environnementale en eau et recours précoce et aux services de santé en cas de fièvre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.